Ouellet.
Vraiment, dans sa coche, là.
En direct.
En direct. En vacances.
Radio. X.
Hola, signor, quisiera una cerveza, per favor.
Ah, ben oui.
Tu sais, le fameux.
Le classique de hey, pour cette semaine, l'île est à moi.
Oui, c'est ça. C'est à moi, c'était là. Je vais aller au bar, puis ça va toujours être ouvert. On a un attachement à Cuba. Pour les gens qui sont déjà allés, c'est un peuple formidable. C'est un peuple qui, malheureusement, subit. Un régime épouvantable.
Ouais, juste un point de vue historique, là, enlevant tout l'aspect communiste un peu dégueu derrière la patente, là, mais l'histoire de deux gars qui parcourent l'Amérique latine en mobylette, qui font leurs études partout, après ça, qui décident de prendre l'île par une espèce de débarquement de peu d'hommes, conquérir les cœurs et les esprits des campagnards, puis ensuite prendre le pouvoir et détrôner Batista. Il y a de quoi de romantique d'un point de vue historique?
On les a même... tu sais, le Che Guevara, je veux dire, à Cuba, c'est un héros national. Tu vas à Montréal, il y a tout le monde un gilet du Che. Je veux dire, tu sais, tu comprends que c'est devenu un symbole de liberdade, de libertade.
Che aurait aimé ça, être ramené au statut de boucle de ceinture vendu trop cher,
ouais,
là,
ou
pour
simple...
enrichir le capitalisme sauvage.
De simple t-shirt vendu au marché aux puces, là, puis il n'y a même pas de redevance versée au peuple cubain, ou du moins à la famille du triste décès. Pour parler de Cuba, parce que c'est un sujet qui ne cesse de nous stimuler, c'est Francisco Antipieva qui est au bout du téléphone. Et puis, comment est-ce, Francisco?
Bonjour, comment est-ce?
Ça va bien. On peut faire l'entrevue en français, Francisco?
Oui, bien sûr, merci, on va le faire en français.
T'es arrivé, t'es cubain, en fait, d'abord et avant tout?
Oui, en fait, je suis cubain. Je suis né d'une famille très drôle. Ma mère est russe, mon père est cubain.
Okay.
Donc, deux pays communistes, socialistes. Là. Donc, mais je suis né, j'ai vécu toute ma vie à Cuba. Je suis arrivé à Québec en 2012. Et comme travailleur professionnel, donc le Québec avait besoin de professionnels, donc j'ai fait mes démarches, puis j'étais capable d'y parvenir en 2012.
Et c'est quoi que tu fais comme professionnellement parlant, Francisco?
Ben, en ce moment, je suis courtier immobilier dans la grande région de Québec.
Pour quelle bannière? Donc, on peut le dire, là, ça me fait plaisir.
Oui, c'est sûr. Je travaille pour EXP, avec la bannière EXP, on travaille ensemble. Donc,
Parle-moi, Francisco, des circonstances en 2012 qui t'ont permis de quitter l'île. Est-ce que tout a été fait de façon bureaucratique, réglo, ou à un certain moment donné, tu as dû partir en courant?
Sur un canot?
Non, ben en fait, il y a de la bureaucratie là-dedans. Donc, moi, j'ai fini mon baccalauréat en génie mécanique. Donc, j'ai dû travailler 2 ans pour le gouvernement parce que c'était obligatoire pour payer mes études, puisque les études sont gratuites. Donc, après le temps qui est passé pendant ce temps-là, j'ai commencé mes démarches pour venir au Québec parce que je suis du plan d'immigration de Québec professionnel. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de la famille aux États-Unis qui ont payé les frais par carte de crédit parce qu'à Cuba, on n'a pas de carte de crédit à ce temps-là. Là.
Imagine.
On n'avait pas de rien. Là. Donc, puis qui ont financé une partie de ma migration, là, mon plan d'immigration. Donc, j'ai pu arriver avec un peu d'argent ici à Québec. Puis redonner cet argent par la suite. Là.
Pourquoi Québec et non Miami comme le fameux cliché cubain?
Ben oui, bonne question.
Ben oui, au début, il y avait quelque chose qui m'attachait au Québec. J'avais des amis qui ont immigré ici à Québec. Puis moi, comme je suis né, j'ai de la famille en Russie, et j'ai vécu le froid quand j'étais enfant. Donc je voulais revenir à cette culture, à cette. Et comme on dit, la nature, et un peu avoir le froid l'hiver, qui me manquait un peu que des grands à Cuba.
Francisco, est-ce que tu fais du ski alpin? Est-ce que tu es devenu un vrai Québécois qui fait du ski doux? Est-ce que tu fais de la raquette les dimanches avec tes enfants et ta femme?
Ben, je vous avoue que l'hiver, c'est difficile des fois. Là. Quand on est à moins 25 avec une grosse humidex, c'est difficile, mais... Sinon, oui, on sort avec les enfants. C'est plus les enfants qui nous ont poussés à aller dehors, profiter de l'hiver, faire du ski, de la planche à neige. Donc,
dans quel état d'esprit t'as quitté l'île en 2012? Est-ce que t'as quitté en aspirant à une vie meilleure, en ayant un dégoût du communisme ou ça t'a été rentré dans l'esprit que c'était la bonne façon à suivre et que tu voulais juste vivre autre chose. Dans quel état d'esprit tu quittes en 2012?
Ben, j'ai quitté vraiment dans le fait de donner une meilleure vie à mes enfants dans le futur. J'étais juste marié, on n'avait pas des enfants, mais on savait qu'à Cuba, sur l'île, on n'avait pas de futur très bon. Là. Donc, c'est ça, c'est les démarches. Donc, en soi, j'ai quitté l'île dans un état d'esprit normal. J'avais pas de. Oui, sans regret. Là. C'est vraiment aller chercher une nouvelle vie, nous donner l'opportunité. Mon salaire à Cuba était de 200 pesos puis 10 dollars par mois. Ça revient à peu près à 15 dollars donc par mois.
Est-ce qu'entre le moment où tu viens au monde, ton enfance, et 2012, le moment où tu quittes, tu vois une dégradation de ta qualité de vie?
Oui, ben en soi, on voyait après, quand je me suis gradué à l'université, après la graduation, on commence à travailler, puis on voit des petites dégradations. Je travaillais pour le ministère de l'énergie, comme on pourrait dire, comme pour Hydro-Québec, ici à Québec. Mm-hmm. Puis on voyait déjà les centrales électriques qui avaient des grosses dégradations. Donc, on faisait beaucoup de maintenance à ces centrales-là, à cette époque-là. Donc, imaginez-vous, à peu près 15 ans plus tard, l'État qui des centrales qui n'ont pas d'entretien.
J'ai visité l'île de Cuba quelques fois, puis j'amène tout le temps mon vélo. Puis mon dernier voyage, j'étais à La Havane. Moi, je ne suis pas très plage. J'allais découvrir un peu le Cuba profond. Puis j'en ai vu des raffineries, mais en fait, des lieux où est-ce qu'on brûle du mazout pour faire de l'électricité, là, des lieux en fait, qui génèrent de l'électricité sur l'île de Cuba. Ce sont des installations soviétique, digne de l'ère des années 60, en fait même des années 50. Ce qu'on comprend quand on visite en dehors des resorts sur Cuba, c'est que le retard accumulé par les Cubains, en fait, au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, mais en fait, tout là, on a l'impression d'être dans un autre siècle.
Oui, non, c'est l'état, c'est vraiment énorme. Puis en plus, les produits qu'on utilise, sont les produits qu'eux peuvent avoir gratuitement par ici, par là, ou payer à bas prix. Là. Puis des fois, ils utilisaient des mazouts cubains qui avaient beaucoup de soufre. Donc, ça détériorait complètement les installations parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources à utiliser.
Donc, on raffinait, en fait, on brûlait plutôt de la marde, en fait, je veux dire, des choses qui étaient très polluantes, destructrices de l'équipement. Là, c'est des mauvais
donc,
produits.
Oui, ça causait beaucoup de dommages, puis c'est ça, c'est la maintenance.
Quelle perception ont les gens de ta génération de la révolution cubaine, de Che, de Fidel Castro? Comment vous le voyez, cette époque-là de l'histoire de Cuba?
Ben, je vous dirais que la plupart des gens de ma génération qui ont fait des études avec moi ont quitté l'île. Donc, puis ceux qui restent, on voit des fois sur les réseaux sociaux des commentaires, parce que quand même, on a eu un peu d'accès à l'Internet dernièrement, puis on voit sur les réseaux sociaux qui sont vraiment tannés, ont besoin d'un changement. Là. C'est quelque chose que je pense ils veulent avoir un changement complet. Là.
Est-ce qu'il y a une part de la population peut-être plus âgée qui est encore accrochée à ce communisme-là, à la révolution cubaine?
Une espèce de nostalgie.
À l'anti-impérialisme aussi, il faut le dire.
Ben, je dirais que nostalgie, il n'y a pas beaucoup en ce moment. Au moins, de ces gens que je connais, il y a quelqu'un qui regarde en arrière et puis se rappelle des beaux moments quand l'Union soviétique soutenait la Cuba et puis avait de tout, là. Même des choses qu'il n'y avait pas en Union soviétique, on l'avait à Cuba. Eux, ils se rappellent de ça, puis ils ont une petite nostalgie, mais la difficulté de jour à jour, je pense que c'est ça qui enlève toute cette sorte de nostalgie en ce moment, là.
C'est quoi la solution? On transforme l'île de Cuba en République démocratique, on installe un gouvernement provisoire, on demande aux Américains de faire une différence, on demande aux casques bleus canadiens. C'est quoi le scénario idéal pour sauver Cuba là, de la déroute actuelle?
Oui, la solution, ça peut être toutes sortes de solutions, sauf qu'ils ont besoin, je pense, le peuple, c'est vraiment quelqu'un qui va venir apporter un peu de la prospérité, parce que quand même, c'est un peu travailleur. Là,
Donald Trump, travailler. J'ai un nom comme ça. Donald Trump va débarquer à Cuba et la prospérité...
Oui, ben je pense pas au niveau politique. Il faut vraiment un changement social complet, là, économique. C'est pas juste au niveau politique. L'économie, il faut que ça change. Le système économique qu'on a présentement, ça marche pas, ça fonctionne pas. Le système de paye salarial, le système de santé est complètement au plat, là, ça... tous les hôpitaux, il faut refaire toute l'infrastructure cubaine.
Pourtant,
donc,
on
il y a plein de choses.
Les mérites des médecins cubains. En fait, on dit souvent les meilleurs, parmi les meilleurs médecins au monde, on retrouve les médecins cubains. Il y a une espèce de fierté attachée à ça. Elle est disparue, cette fierté-là?
Ben, on a des bons médecins cubains, mais la plupart sont déjà à l'extérieur. Donc, là, il y a beaucoup qui ont quitté. Là. Beaucoup qui ont quitté. Donc, oui, il reste quelques-uns à Cuba, mais sont vraiment sur des spécialités ou pour des gens spécifiques, pas pour la population. Des fois, la population est confrontée vraiment à une pénurie énorme là, des médicaments, des hôpitaux, des lits dans les hôpitaux qui valent la peine. Donc, c'est difficile.
Est-ce que le sentiment anti-américain, anti-impérialiste est encore présent à Cuba? Est-ce que les gens qui veulent une intervention ou un sauveur, disons-le comme ça, veulent que le sauveur soit cubain ou ils sont ouverts, selon toi, à une ingérence étrangère, carrément?
Ben, je pense qu'il y a une grosse ouverture en ce moment à Cuba. Ils veulent avoir quelqu'un qui vient changer les choses, qui vient améliorer les choses. Puis on a une grosse communauté aux États-Unis aussi, à Miami, puis à New York. Là, il y a une grosse communauté cubaine. Donc, l'influence américaine, c'est inévitable, je pense, à un moment donné. Là.
Et surtout, là, vous avez Marco Rubio de votre bord, qui est un Cubain d'origine, qui, lui, s'endort en pensant sauver Cuba un jour, la nuit. je veux dire, c'est peut-être une fenêtre d'opportunité incroyable pour l'île là, d'avoir ce gars-là dans cette position-là.
Oui, je pense qu'il va en avoir, il doit avoir quelque chose. On peut pas, le peuple ne pourra pas continuer comme ça pendant plus longtemps. Là. Des gens de la famille encore qui vit des 48 heures sans électricité, et donc pas de nourriture, de problèmes comme ça. Là.
Est-ce que tu crois que le peuple pourrait se réveiller, entre guillemets, et carrément se retourner contre son gouvernement, autant répressionniste qu'il va pouvoir être? Là? Est-ce que tu penses qu'on pourrait assister à des émeutes majeures à Cuba?
Une révolution?
Oui.
Oui. Ben, ça pourrait être une deuxième révolution qui amenait le changement, mais il y a une grosse, je ne sais pas comment on pourrait dire, une grosse poids gouvernemental dans le fait au niveau des militaires puis des policiers. Mm-hmm. Donc,
pourquoi ces gens-là restent fidèles à l'ordre qui leur sont donnés? Ils sont armés et ils vivent probablement les mêmes problématiques que leurs voisins.
Sous-payés.
Sous-payés, exact, dans des conditions de vie qui sont pas envieuses. Pourquoi l'armée et justement les policiers n'imbriquent pas le pas dans cette révolution-là, justement?
Un coup d'État.
Mais oui, carrément.
Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est vraiment la peur. Parce que c'est pas. S'il y a quelqu'un qui commence à avoir des idées. Ces idées sont comme transmises, puis ils vont se faire silencer rapidement. Là. Donc, c'est vraiment, il manque de l'unité à Cuba, il manque d'un leader qui pourra prendre la relais. Là. Puis,
actuellement,
je pense,
est-ce que tu as de la famille qui est là encore à ce jour?
Pas ma famille directe, mais j'ai un beau-père qui habite encore sur l'île, puis on jase de fois en temps, puis c'est difficile.
Est-ce que tu es retourné à Cuba, Francisco? Est-ce que tu es déjà retourné? Est-ce qu'on t'a permis?
Je suis allé. Une seule fois après que j'ai quitté, parce que mon frère habitait là-bas encore, mais lui, finalement, il est déménagé à Québec, pareil.
Tu es allé chercher.
Oui, je suis allé chercher.
Le blocus pétrolier des derniers mois, là, on a senti quand même une pression là, jamais vue sur Cuba, sur la Havane, entre autres. Et là, ben, on a eu des pénuries, des bris de service. Est-ce que ça va un peu mieux ou c'est ça s'est empiré depuis le début de l'été?
Ben, je pense que c'est encore pire. Mais c'est un vrai blocus, ce qu'on a en ce moment. Les blocus avant, c'était juste des mots, je pense. Mais en ce moment, on voit les vrais blocus. Mon beau-père me dit, des fois, il n'y a pas de voitures sur les routes là, parce qu'il carrément manque de l'essence. Et l'essence est devenue très chère. Puis le seul moyen qu'ils ont maintenant sont des voitures chinoises électriques ou quelques voitures électriques ou des gens du régime qui ont accès à avoir un peu d'essence pour pouvoir se déplacer en voiture. Là.
Et je présume que faire parvenir des biens ou de l'aide quelconque, c'est impossible actuellement pour toi?
Ben, quand même, il y a des gens qui envoient des choses à Cuba. Il y a des systèmes qui existent encore en place pour envoyer des choses à Cuba, envoyer de l'argent. Ils ont trouvé des moyens parce que les moyens normaux ont été bloqués par les États-Unis, mais ils ont trouvé des moyens, par exemple, des gens qui déposent ici l'argent, puis quelqu'un qui donne l'argent là-bas à la famille. Il y a des façons qu'ils ont trouvées, mais c'est, la plupart des temps, c'est à travers l'Église ou des entités comme ça.
Est-ce qu'il existe des activistes ou des figures politiques à Cuba qui représentent une forme d'espoir, là, mais qui est peut-être vie cachée, justement, pour ne pas se faire étriper par le gouvernement, là? Mais est-ce qu'il y a des figures, des futurs Che, des futurs Fidel Castro, mais pas communistes? Est-ce qu'il y a des noms qui circulent, selon toi?
Ben, en soi, c'est très vague. Il y a certains activistes qui habitent l'île, se font surveiller, clairement. Là. Mm-hmm. Mais il y a quelques-uns qui se font emprisonner ou demander d'aller à la station de police pour se faire interroger pour des choses qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux, des actions qu'ils ont prises. Là. Mais c'est il n'y a pas vraiment...
C'est encore un pays communiste avec des lois, je veux dire, qui sont
libérées. Oui, c'est ça. Ils peuvent arriver, ils peuvent juste... t'enfermer chez toi, puis tu ne pourrais pas sortir, ils ne te laisseront pas sortir, ou ils vont carrément venir te chercher pour t'interroger, ou laisser quelques jours à la prison. Puis, qu'est-ce qui se passe derrière ce moment-là? On ne sait jamais. Hein? La façon qu'il parle avec les gens, l'intimidation, toutes ces choses-là.
Oui, les droits de l'homme, ce n'est pas, pas l'apanage de Cuba. Là.
Non.
Ça reste un État communiste avec tout ce qui se fait, en fait, là, en catimini, la torture, les emprisonnements, en fait... aléatoire, la presse qui est menottée, c'est triste.
Ouais.
Est-ce que tes enfants parfois te parlent de leurs... Parce qu'eux ne sont pas nés à Cuba, si je comprends bien, mais est-ce qu'ils...
Non, ils sont nés ici, ouais.
Est-ce qu'ils te parlent de Cuba? Est-ce qu'ils aimeraient ça y retourner un jour? Est-ce que ça les habite quand même, leurs racines profondes?
Oui, je pense quand même. On écoute la musique cubaine, parle en espagnol aussi, des fois, ils portent des chandails avec les flags de Cuba, avec les noms Cuba. Donc, ça les touche pareil. Ils posent tout le temps des questions. On regarde les maps, Google Maps, puis je les montre où j'habitais avec sa mère. Donc, ça les touche. Donc, oui, on aimerait un jour pouvoir retourner pour qu'ils connaissent vraiment l'île où on a habité. Là. Mais pas pour l'instant, c'est pas envisagé.
En tant que courtier immobilier, est-ce que tu rêverais un jour d'avoir une résidence secondaire à Cuba, un chalet, comme on dit au Québec? Là?
Ou juste pouvoir posséder quelque chose à Cuba?
Posséder quelque chose, puis tu dis à tes enfants, ben, ouais. on retourne à Cuba, on a une petite résidence là-bas, un chalet, un condo, peu importe, quelque chose.
Un time sharing,
peut-être pas, là, mais...
Ben, je vous dirais que les prochains marchés, si l'île change, puis qu'on a des banques qui peuvent garantir les prêts, qui peuvent garantir l'économie. Le prochain marché, boom immobilier, ça va être Cuba, puis ça va devenir un gros marché pour les Québécois, pouvoir avoir, genre, comme on allait en Floride, avoir Cuba. Ouais. Mm-hmm. Ça va être un gros marché, puis c'est ça. J'aimerais participer à cette réouverture, puis faire des transactions immobilières à Cuba aussi, puis aider les Québécois à se trouver des...
À acquérir des terrains.
Ouais, à acquérir des biens, oui.
Des biens là-bas. Bon, super. Est-ce que, je veux juste te remercier, en fait, d'avoir pris la peine aujourd'hui, Francisco Antipieva, d'avoir pris la parole comme ça sur nos ondes. C'est fort intéressant de voir cet angle-là de quelqu'un qui a quitté pour peut-être un jour revenir et qui fait partie vraiment de notre communauté. Francisco, t'es un des nôtres, je veux dire, tes enfants sont nés ici,
ouais.
Tu travailles ici, tu payes des taxes comme nous autres, je veux dire, t'es un des nôtres. Et ben, d'avoir cette vision-là de quelqu'un qui a quitté Cuba, c'était vraiment précieux ce midi.
Merci beaucoup à vous pour m'avoir invité, pour pouvoir discuter un peu de l'état de l'île. Mais c'est ça, comme vous disiez, moi, je me sens déjà d'ici, donc je ne pense pas revenir un jour à Cuba, vivre, mais oui, pour faire de la business, puis peut-être aller profiter du soleil, bien sûr.
Francisco Antipieva, vous pouvez le rejoindre en fait sur EXP, agence immobilière, si vous avez une belle maison à vendre, et il sera évidemment à l'autre bout du fil, puis c'est évidemment un ressortissant cubain qui nous parlait aujourd'hui là, de ce que l'île, en fait, ce que les Cubains présentement vivent sur l'île de Cuba. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, Francisco.
Merci.
Salut.
Bonne journée.
Bye. Bonne journée. Bye. Incroyable, hein, quand même. C'est de voir que ces enfants qui sont nés ici ont encore un attachement, ça va de soi, là, mais que lui rêve peut-être d'aller faire de la business à Cuba.
C'est fou, hein, à quel point il y a eu un shift de temporalité, disons-le comme ça. Là, lui, il passe de « je suis un peu captif de ce style-là » à « je m'en vais de là » puis il rêve un jour d'y faire de la business. Tu sais,
je trouve c'est le capitalisme appliqué. Je veux dire, un agent d'immeuble, un courtier, pardon, en immobilier, c'est capitaliste, je veux dire, comme job. Là, c'est, t'as des profits, tu vises de t'accomplir, de faire de l'argent. En fait.
C'est quand même fascinant parce que, tu sais...
Tout ce qui est anti-cubain.
Et très avisé, la personne qui va être en mesure de me dire ce qui va se passer vraiment.
Vraiment.
Cuba, là, mais la seule affaire sur laquelle on peut tous s'entendre, c'est que ça ne peut pas durer comme c'est là. Là, clairement, il y a une stratégie géopolitique
on est
de
tous...
starving. Là.
Ouais.
On les affame. Là, c'est le peuple qui en paie les frais, mais éventuellement... Là,
c'est l'industrie touristique aussi qui, finalement,
exact.
Les resorts ferment. Là,
c'est fini, ça, là.
Camille, elle nous l'a dit, là, le monde qui va à Cuba, là, c'est du monde qui a de la famille là-bas. Là,
exact. Mais il faisait bien de le dire, Francisco, éventuellement, là, sur le radar, quand le starving sera fini, il y aura probablement un genre de 2008 de la Floride, là, c'est-à-dire vous pouvez ramasser un condo pour 42 000, puis dans quelques années, de leur vendre 350, là, version cubaine. La logique impose ça, parce qu'ils peuvent pas continuer comme ils sont là. Hier soir, en faisant ma recherche, je suis tombé sur une série de dépêches disant que les Cubains, là, pour avoir un peu de fraîche puis tout ça, couchent sur le bord des plages. Là.
Okay. Sont pour là. Se rafraîchir, là.
Oh, oui.
Tellement il n'y a pas de clim.
C'est ça, tant qu'à pas avoir d'eau, tant qu'à pas avoir de chaleur dans l'eau, de l'eau chaude et tout ça, on va se laver directement dans la beach.
Le statu quo est impossible.
Non,
pour les
ça.
Cubains, pour les touristes.
C'est pas durable.
Puis, c'est comme si on joue au Monopoly, là. C'est Baltique, Méditerranée, Cuba, là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, mets-en des maisons, mets-en des hôtels, puis à un moment donné, ça va être comme la promenade, là, au sens que, tu sais, spéculons. C'est un pays extraordinaire avec des plages magnifiques. Il y a tout à développer là-bas.
Oui, puis on a vu que... Donald aime bien les victoires étincelantes qui vont vite.
Ouais,
genre
ouais.
Maduro en tracking suit.
Oui, oui, victoire éclair. Là.
C'est ça.
La guerre éclair, en fait.
Fait que d'après moi, quand s'il réussit à sortir de l'Iran, ou peut-être pour faire oublier de l'Iran ou du Epstein, peu importe.
Check ma main gauche pendant que ma main droite fait d'autres choses.
Oui, puis ma main droite, ça se pourrait très bien qu'elle rentre dans Cuba comme un couteau chaud dans du beurre.
On prend une petite pause? Et au retour de celle-ci, on ne sait même pas ce qu'on va faire, mais restez bien branchés à Radio X.
Ouellet.
Non.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.